L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on retrouve l'historien de Brest, Benoît Quinquis, qui s'intéresse à toutes les époques. Alors, on a eu les idées reçues sur la cité du Ponant à travers les époques, on a eu les Brestoises remarquables, également au fil des âges, le siège de Brest en 1944, et voici donc le dernier épisode de la saison qui sera consacré aux visites présidentielles à Brest, car oui, pour une ville, quelle qu'elle soit, même en cas de président impopulaire, recevoir la visite du chef de l'État, c'est un moment particulier qui s'inscrit souvent dans l'histoire locale. À Brest, on peut imaginer que le côté militaire du port exerce en soi une attraction particulière pour le chef des armées, qu'est le président de la République française, à moins qu'il ne s'agisse d'un besoin de prendre l'air de la mer au bout du pays, sans doute un peu les deux. Bonjour Benoît.
Bonjour Véronique.
Alors pourquoi, oui, c'est intéressant d'examiner, surtout à Brest, les visites présidentielles ?
Eh bien déjà parce que, comme François Hollande me l'a lui-même confirmé, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer brièvement, eh bien Brest est tout simplement, c'est le siège de la force de frappe. Donc c'est un passage obligé pour le président de la République. Bon. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il faut bien savoir que quand Napoléon III est venu à Brest pendant son règne, aucun chef d'État français n'était venu à Brest depuis très longtemps, depuis même 3 siècles, il me semble. Donc ça avait été une première. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'est devenu. Et donc le simple fait que Brest soit devenu un passage obligé est déjà un élément historiel important. Donc, et d'ailleurs, quand on compare entre elles ces différentes visites, certes, on peut certes prendre le pouls de la popularité, de la plus ou moins grande popularité d'un président, au moins sur le territoire brestois, mais on peut aussi prendre, mais on prend aussi le pouls de l'histoire de Brest à un instant T de l'histoire, à un instant T. Donc.
Oui, c'est ça. Alors là, on va remonter simplement jusqu'en 47. Pourquoi
simplement jusqu'en 47 ouais. Ça couvre déjà une sacrée période. En 47, déjà, c'est l'avènement de la 4e République, donc on sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Les plaies sont encore très vives, comme nous allons le voir, donc ça montre une évolution, mais c'est un record. Brest était vraiment en ruine. Les quartiers entiers avaient été détruits. Donc, quand on voit aujourd'hui ce que c'est aujourd'hui, on a du mal à le présenter. Brest s'est vraiment relevé de ses cendres. Donc, c'est déjà une période qui, à elle seule, est extrêmement intéressante, même si elle est très récente encore. Donc, alors, on aurait pu remonter à beaucoup plus loin, effectivement, puisque d'autres présidents de la République sont venus sous la Troisième République. Mais d'une part, ça aurait été trop long.
Et ça serait pas tenu dans l'émission.
Et d'autre part, c'est déjà une autre époque. Ouais, c'est une époque simplement, on n'aurait pas imaginé la désolation de la Seconde Guerre mondiale.
D'accord, donc là on a justement Vincent Auriol qui arrive sur un champ de ruines, c'est ça
hein ? Ah, un champ de ruines, il n'y a pas d'autre mot. Il est arrivé le 30 mai 1948, il a été accueilli par la musique des équipages de la flotte et la clique des mousses, mais ensuite il a visité la cité de Baraque et il a vu des pancartes qui réclamaient du beurre et des conserves. Bref, il a vraiment pris la température d'une ville qui était martyre, où on manquait de tout, et il fit une déclaration déchirante. La France ne peut s'imaginer la grande misère de Brest. Il a même posé à cette occasion la première pierre du pont de l'Artelloire et a remis à la ville la croix de guerre avec palme et légion d'honneur. Donc c'était sympa, mais ça remplissait pas le ventre. Donc,
Oui, parce que c'était vraiment une période dure pour Brest. Les baraques, c'était quasiment des bidonvilles.
Faut pas exagérer quand même. On peut aussi admirer justement la résilience des Brestois qui ont quand même su, pour certains, faire de leur baraque un petit coin de paradis. En tout cas, un endroit vivable. Donc, d'ailleurs, certains l'ont quitté à contre-cœur. Bon, pas tous, effectivement. Mais les stigmates de la guerre était vraiment très présent.
Donc c'était symbolique pour une Brest d'avoir aussi le président qui vienne jusque-là,
Effectivement, c'était une forme de reconnaissance pour la douleur endurée.
Même si, 4e République, le président n'était pas encore ce qu'il est devenu après.
Non, effectivement, le rôle était beaucoup plus honorifique qu'aujourd'hui.
Il y a un président qui aurait dû venir, mais qui n'est pas venu, c'est ça, c'est René Coty.
Ouais, attention, il est venu, mais pas en tant que président, en tant que ministre de la Reconstruction, par la force des choses. Donc, d'ailleurs, Vincent Auriol l'avait lui-même accueilli, mais il n'a pas pu revenir en tant que président. Alors, il est allé certes au Danemark à bord du Jean Bart, un cuirassé qui est bâti à Brest, mais c'est au Havre qu'il a embarqué le 13 mai 1955. Alors, une visite de Brest était prévue pour le 13 juin 1958 et a même fait l'objet d'une répétition minutieuse, mais... Le 21 mai, une lettre annonça le report de la visite en raison de l'état d'urgence et de la gravité de la situation politique. Elle a finalement été reprogrammée en juin 1959. Mais entre-temps, une nouvelle république avait vu le jour. René Coty n'était plus président. Donc finalement, il n'est jamais venu à Brest en tant que président.
Et voilà, le président de la Ve République par excellence, c'était Charles de Gaulle, qui lui évidemment est venu. Et là, c'était Brest, ça y est, était reconstruite. Quoi.
Oui, attention, attention. Déjà, Brest était reconstruite, pas tout à fait, même si les stigmates les plus importants de la guerre étaient passés. Donc, mais il fallait encore attendre un peu pour que le quartier du Bouguin, notamment, sorte de terre. Et l'habitat en baraque n'a vraiment disparu que dans les années 70, donc, d'une part. Et d'autre part, Charles de Gaulle était déjà passé 3 fois à Brest. Son passage le plus notable, bah, c'était en 1940, justement, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais en juin 1940, il est parti de Brest. Attention, attention. Il est parti 2 fois de France. Une première fois à Brest pour l'Angleterre, une première fois pour s'assurer. Il avait été missionné pour s'assurer du soutien de la Grande-Bretagne, alors que la République n'avait pas encore été renversée. Donc, et puis après, il est allé à Bordeaux où le gouvernement s'était réfugié. Et entre temps, paf, il apprend que Pierre Lorenau avait été démissionné et que Pétain avait pris le pouvoir. Donc il est reparti en Angleterre à ce moment-là. Mais Brest a été la première station de départ. Donc on a tendance à l'oublier, c'est vrai.
Et il est revenu en tant que président. Alors quand ?
Attention, il est passé deux autres fois par la suite, mais la première visite en tant que président de la République, c'est le 7 septembre 1960, alors que les ruines et gravats ont disparu pour la plupart. Donc, et il a pu remettre à cette occasion officiellement la médaille de la résistance que la ville avait déjà obtenue en 1947. La remise a eu lieu sur la place des fusillés, ainsi nommée en souvenir notamment des fusillés du groupe Élie, donc les fameux 11 martyrs dont une place porte le nom. Donc, et le général a pu prendre un bain de foule auprès du personnel de l'arsenal. Donc, il y a eu une deuxième visite le 15 février 1965 dans le cadre d'une tournée des écoles militaires du pays. Il a prononcé cette phrase « La géographie a peut-être fait de Brest un haut lieu de notre destin ». Donc, ce qui n'est pas faux. Et il est aussi passé beaucoup plus brièvement, le 15 juillet 1967, avant de partir en voyage officiel au Canada. Et ça, mine de rien, ce n'est pas rien, puisque c'est justement en partant de là, c'est justement le point de départ de ce voyage, au terme duquel il a crié « Vive le Québec libre !»
Il avait été inspiré par Brest, sans doute.
Oh, je ne sais pas, non. J'ai lu dans un livre les derniers chagrins du général de Gaulle, qu'il le mûrissait depuis très longtemps. La cause du Québec lui avait tenu à cœur depuis très longtemps. Donc, Mais sa visite la plus amère fut la dernière, le 1er février 1969. En effet, les événements de mai 68 étaient encore frais dans la mémoire. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que Brest avait été avant-garde, puisque les ouvriers brestois avaient manifesté avant ceux de Paris. Donc, et même les étudiants ont précédé ceux de la Sorbonne dans la colère. Donc, ils étaient encore frais les événements étaient encore frais dans la mémoire. Et quand il est arrivé à l'hôtel de ville pour évoquer les difficultés économiques de la région, il y a eu certes, ses partisans ont dit « Oui, vive le général, tout ça », mais il y a eu des cris hostiles qui ont répondu. Alors, ça aurait pu mal tourner. Le général a quand même pris le temps de constater l'avancement de la grande forme de Radoub du port de commerce. Mais bon, de toute façon, 1969, c'est l'année où il a eu du fameux référendum qui a conduit à sa démission. Donc,
C'était sa dernière année en tant que président. Et puis il a donc ensuite été remplacé par Georges Pompidou, qui est venu aussi, mais pas beaucoup.
Par la force des choses, son mandat n'a duré que 5 ans. C'est même le plus court pour un président de la République. Enfin, en tout cas, il était vraiment avant Orté.
Il est mort d'un cancer en 1974, donc.
Oui, comme on disait, à force d'aller toujours mieux, il a fini par mourir. Donc, Bon, il pouvait passer à Brest une seule fois, le 22 octobre 1971. Il est d'abord passé à la mairie, dans la salle Richelieu, où il écouta silencieusement les explications sur les réalisations annoncées, puis a prononcé un discours retransmis de l'extérieur, où retentirent des cris tels que liberté d'expression et du travail en Bretagne. D'ailleurs, selon certains témoins.
Pourquoi liberté d'expression ?
Parce que c'est vrai qu'il y avait eu des militants, on dirait des gauchistes aujourd'hui, des 68ards, qui avaient été incarcérés, qu'on avait reproché des violences policières. Donc, déjà, en fait.
Rien de nouveau sous le soleil.
Absolument rien. Donc,
et du travail en Bretagne aussi, ils ont crié, c'est ça ?
Oui, parce qu'on s'inquiétait effectivement. Il faut savoir qu'à l'époque, la Bretagne était une terre d'émigration. Beaucoup de jeunes quittaient la région pour chercher du travail ailleurs. Donc,
c'est ça. Ça ne va plus tellement de soi aujourd'hui, où on est plutôt une région dynamique d'un point de vue économique. Mais c'est vrai que là, c'était la crise déjà, quoi, en fait.
Pour d'autres raisons, pendant longtemps, d'ailleurs, la basse Bretagne, comme on l'appelait, encore se sentait comme une terre pauvre que le progrès avait oubliée. Donc, de ce fait, il faut savoir que selon certains témoins que j'ai rencontrés, Brest fut la seule grande ville de province où l'accueil du président Pompidou était chahuté. Et il y a eu des heurts entre policiers et étudiants. Pompidou a quand même pu saluer la foule et a fleuri le monument aux morts pour ensuite gagner l'île Longue en hélicoptère où visita le Redoutable et la Jeanne d'Arc.
Alors, des visites chahutées, après ça a presque plus arrêté, non j'exagère, mais en tout cas Valéry Giscard d'Estaing lui aussi, il a eu sa visite chahutée, c'est ça ?
Oui. Alors, il était encore tout jeune pour un président. Enfin, on a trouvé plus jeune depuis après.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il avait 48 ans quand il est venu à Lille Longue le 7 novembre 1974. Et effectivement, 5000 manifestants, du moins d'après le quotidien Ouest-France, ont défilé dans la rue de Brest. Et VGE, comme on l'appelait, a évité la confrontation directe avec une population brestoise qui était déjà très affectée par le chômage. Et oui, les années 70, c'est l'avènement du chômage de masse. Donc, son prédécesseur, Pompidou, avait dit que le jour où on atteindrait 1 million de chômeurs en France, ce serait révolution. Bon, on est loin du compte, je pense. Hein. Bon, donc il a évité la confrontation avec la population qui était en colère. Il a embarqué à bord du Terrible pour une plongée de 24 heures. Oui, le Terrible est un sous-marin. Mmh. Et ensuite, sur la Jeanne d'Arc, il a réaffirmé la vocation maritime de la France. Mais il n'a pas rassuré les marins sur l'avenir de la flotte. Il a quand même écouté des représentants de la population dans l'aérogare de Guy Pava. Il revint ensuite le 7 janvier 1977 pour saluer le départ des officiers élèves de la Jeanne d'Arc. En marge de cette visite réglée comme du papier à musique, faut bien le dire, au cours de laquelle le président accorda une poignée de main sans chaleur au mercredi de Francis Lebray, 5000 à 7000 manifestants défilèrent dans les rues. Et je me crois me souvenir, j'avais oublié de le mentionner dans un article précédent, mais il avait notamment dû faire face à des questions embarrassantes d'un tout jeune conseiller municipal appelé un grand avenir, un certain Pierre Maille.
Et Francis Leblay donc a donné son nom au stade de foot, on le sait notamment. Et puis alors ça y est, les années Mitterrand arrivent, hein, et comme lui il est resté longtemps au pouvoir, il est venu souvent à Brest.
Oui, attention, et c'est pas seulement parce qu'il est resté longtemps au pouvoir, c'est aussi parce qu'il était plutôt bien accueilli. Donc,
oui.
Alors, premier passage, le 24 juillet 1981, il a profité d'une visite de l'île Longue pour passer à Brest, où il avait, disait-il, des amis personnels, effectivement.
Mais on sait qui c'est ?
Ben, notamment le maire lui-même, donc Francis Leblay, qu'il a rencontré. Et il a gagné, porté par une marée humaine, l'hôtel de ville où un mariage devait avoir lieu. Ce qui a offert à la mariée une huée d'honneur à laquelle ne s'attendait pas. La suite, bon, l'histoire ne dit pas après si son mariage a été heureux. Hein. C'est... Alors, il y a une visite plus protocolaire, le 15 mai 1985. Il est revenu à l'île Longue pour assister au départ de l'Inflexible, avec 96 têtes nucléaires à bord. Puis après, le 8 octobre 1985, il a visité Ifremer, qui venait d'être inauguré. Le 29 novembre 1988, peu après sa réélection, il est venu assister à la cérémonie de départ de la Jeanne d'Arc, mais il n'y a pas eu de revue aéronavale à cause de la faible visibilité due au crash. Oui, à Brest, il arrive de temps en temps qu'il pleuve. Hein,
de temps en temps, seulement.
Alors, il était aussi présent le 7 mai 1994 pour la mise à flot du porte-avions Charles de Gaulle, mais sa visite la plus mémorable, ce fut la dernière, celle du 19 octobre 1994, où il était venu inaugurer la faculté Victor Séguin. Alors, il y avait eu quelques manifestants de personnel de l'UBO.
Quand même.
Mais les protestataires s'adressaient plutôt au ministre de l'Enseignement supérieur, un certain François Fillon.
Mais c'était la cohabitation.
Oui, Edouard Balladur était Premier ministre. Et à l'époque, François Fillon, vous avez déjà parlé de lui.
Il était là.
Bah oui, il était ministre de l'Enseignement supérieur.
Oui, comme c'était l'inauguration de la fac. Ouais.
Il était présent. Alors, oui, d'accord. Mais l'ambiance fut globalement bon enfant. Et certains témoins affirment, je le tiens en tout cas d'un ancien doyen de la fac Séguinin. Ils affirment que quand le chef de l'État échangeait avec des étudiants, il avait fait montre d'une vivacité d'esprit telle qu'on n'imaginait pas un seul instant qu'il allait mourir un an plus tard. Donc, comme quoi, on peut penser à ce qu'on veut, il était resté un esprit très vif jusqu'au bout.
Et puis après François Mitterrand, un autre président qui a duré un certain temps, Jacques Chirac. Alors, finalement, pas si populaire, en tout cas pas à Brest.
Non, effectivement. Alors, en mai 1996, à la fin d'une visite de Quimper, il a déclaré « Le Finistère est un des plus beaux et des plus dynamiques départements de notre pays ». Bon, on peut... Et puis, donc, il a annoncé une visite à Brest le 14 juin pour rencontrer les travailleurs de la DCN. Il ne faut pas perdre de vue que Jacques Chirac était quand même volontaire pour combattre en Algérie. Il était très sensible à la cause militaire. Donc,
ça me rappelle DCN, direction des chantiers navals.
Ça me rappelle un dessin de Cabuc réalisé à l'époque de son refus de la guerre en Irak. Il avait présenté Chirac en hippie et en insoumis. Donc, et sa femme disait « Quand je pense que j'ai épousé un officier de cavalerie ». Donc, bon, mais revenons à nos moutons. Alors, il s'attardait surtout à l'école navale, justement, dans les entrailles du Triomphant, et sur le pont du Charles de Gaulle, où il fit cette réflexion. Les porte-avions, c'est comme les gendarmes, cela marche par deux. Oui. Ça se discute.
Ça se discute, mais alors,
au cours de sa deuxième visite, deux ans après sa réélection, le 17 février 2004, il salua la mémoire des pêcheurs du Bugalet Braise. Et d'ailleurs, à ce propos, cette visite a été immortalisée dans la bande dessinée sur le Bugalet Braise, justement. Je me souviens qu'à l'époque, Chirac était encore vivant, mais ça faisait drôle de le voir en bonne santé. Hein, donc, allez, excusez-moi. Il a visité plusieurs navires dédiés à la sécurité maritime, dénonçant au passage les voyous de la mer. Ça n'a pas calmé les 450 manifestants qui protestaient contre la construction du deuxième porte-avions, pas pour des raisons pacifistes, mais parce qu'il avait finalement été attribué à Saint-Nazaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, rien ne vaut le soleil. Hein.
Ben non.
Et le 19 janvier 2006, il est revenu pour la dernière fois à l'île Longue pour une courte visite du sous-marin Le Vigilant et un discours aux marins dans la salle des ports. Et oui, toujours l'armée. Hein.
Oui, donc il est venu plusieurs fois aussi. Alors, Le Guilvinec avait vu passer Nicolas Sarkozy et il y avait eu la fameuse altercation « Si je descends, je te mets un coup de boule » de la part d'un marin. Donc c'est peut-être pour ça que Sarkozy n'aimait pas trop le Finistère, non ? C'est ça ?
Oui. Même d'après Yasmina Reza, il ne portait pas la Bretagne dans son cœur.
Toute la
cœur.
Bretagne.
Bah, ah ouais. Oui, il aurait dit « Je me fous des Bretons », carrément. Donc, mais bon, il faut dire que la Bretagne lui rendait bien. Je me souviens qu'au présidentiel 2007, Ségolène Royal avait été majoritaire au second tour en Bretagne. Donc, il s'est quand même rendu 4 fois dans le Finistère durant son quinquennat, dont 1 fois à l'île Longue, accompagné du ministre de la Défense, un certain Hervé Morin, que j'aime appeler l'homme invisible aujourd'hui. Donc, il réaffirma l'importance de la dissuasion nucléaire, qu'il appelait l'assurance vie de la France. Ça se discute. Mais sorti de ça, ils sont vraiment à éviter la ville du Ponant. Donc,
François Hollande n'a pas évité la ville, et puis il est même revenu après, apparemment.
Oui, il faut dire qu'il entretenait une relation privilégiée avec Brest, puisque c'est justement dans cette ville qu'il est devenu chef du Parti Socialiste, en 1998, si mes souvenirs sont bons. Donc, bon, au cours d'un congrès du PS. Alors, il inaugure donc son quinquennat avec l'effet de maritime, le 14 juillet 2012, où il profita d'un soleil exceptionnel, oui, exceptionnel, je confirme, et a pris un bain de foule gigantesque sur les quais. C'était encore un peu l'état de grâce, on va dire. Donc, il est revenu le 30 avril 2015 pour inaugurer le campus des métiers à Guy Pava et le campus des métiers de la mer au lycée Vauban. Mais son passage le plus mémorable, ce fut le dernier, celui du 16 février 2017, où dans le cadre de son dernier voyage présidentiel en Bretagne, il inaugurait la médiathèque des Capucins, qui s'appelle médiathèque François Mitterrand d'ailleurs.
Oui,
c'est original, je sais. Bon. Il a salué, au passage, un lieu sublime par son histoire et par son ouverture sur la culture, sur l'avenir. Alors, sa popularité à l'époque était vraiment au berne au niveau national, mais il a quand même été applaudi par les Brestois, et il a accordé des selfies, des accolades, et même des embrassades avec un public joyeux.
Il n'y a pas une manif, alors ?
Non, pas à mes connaissances. Et le maire François Cuyandre, le maire, l'a remercié pour son 3e voyage, quand d'autres ne sont jamais venus. On se demande bien à qui il pensait. Donc, il faut savoir aussi, ça c'est une anecdote que je cite comme ça, hein, un an après son départ de l'Élysée, il est revenu à Brest pour dédicacer les leçons du pouvoir. J'étais venu pour l'interroger cette occasion, parce que c'était une occasion à ne pas rater pour côté Brest. Et je m'étais posté à l'entrée de la librairie, et je vois passer un couple qui entre, qui voit l'affichette annonçant la venue de François Hollande, et dit « Oh, regarde, le petit François !» Et je me suis dit « Si le petit François, c'est tout ce qu'on a trouvé pour appeler un président dont on souhaitait le départ un an après, c'est plutôt gentil. » Donc ça résumait à mon sens. Bon, certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord, mais je crois que beaucoup de gens en France n'ont pas de respect pour François Hollande, mais n'arrivent pas vraiment à le détester. Donc,
Ouais, puis, oui, c'est vrai que le petit François, ça peut sembler affectueux, même si c'est un petit peu, sans doute, un peu méprisant par rapport à François Mitterrand, j'imagine, hein, c'est ça. et puis, bah, alors, le président en exercice est venu aussi, plusieurs fois d'ailleurs, je crois.
Oui,
non
oui, il est même venu avant son élection. Donc, on peut penser ce qu'on veut, il ne méprise pas à Brest. Et peu après son élection, le 4 juillet 2017, il a visité la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue et salua au passage les ouvriers et a même plongé à bord de l'un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, rappelant au passage la nécessaire permanence de la dissuasion du pays. Un discours proche de Nicolas Sarkozy. Donc, après, il est passé plusieurs fois en Bretagne. Je ne sais plus s'il est passé par Brest après. Mais bon, là, on s'éloigne déjà de l'histoire pour parler de l'actualité. Donc.
Ah oui. Et Emmanuel Macron, qui a quand même été un petit peu chahuté, entre guillemets. Enfin, il est venu en novembre et on lui a reproché d'être venu en avion à Brest, c'est ça, apparemment. Donc, voilà.
Bah, c'est vrai que prendre l'avion aujourd'hui, du fait des préoccupations écologiques, ce n'est plus trop d'actualité. Donc, mais ça me rappelle une autre visite, pas d'un président, mais d'un Premier ministre, Raymond Barre, donc, qui est arrivé en hélicoptère et qui s'était posé dans la cour du château. Donc, c'est un détail cocasse, mine de rien. Donc,
Il est venu en hélicoptère de Paris ?
Je ne sais plus.
Ah donc, oui, peut-être pas quand même. Parce que... Et il nous reste du temps, alors est-ce qu'il y a d'autres anecdotes à citer autour de ces visites présidentielles ?
Pas vraiment à ma connaissance, on dirait-je. Donc, je vous ai dit essentiel, je crois. Je crois me souvenir que Vincent Auriol avait quand même donné beaucoup de son argent personnel pour aider Brest dans la reconstruction. Donc, mais il faut dire que la situation était vraiment désastreuse. Donc,
son argent personnel.
Bah, si mes souvenirs sont bons, mais il n'est pas le seul. Hein. Je me souviens que même Eva Perron avait envoyé de l'argent en soutien à la ville martyre. Donc, je vous dis, la situation en Brest après la Seconde Guerre mondiale était vraiment en critique. Et à tel point que quand il y a 2 ans, on nous a montré les images de Kiev bombardées, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose.
Très bien. Eh bien, on pourra lire. Ah, oui.
Je pourrais aussi dire que. Alors, quand Charles de Gaulle est venu, il a remis la médaille de la résistance à Georges Lombard, c'est normal, c'était le maire de l'époque. C'est Georges Lombard qui a beaucoup fait pour la ville. On prétend que Georges Lombard a vraiment fait. Georges Lombard fait beaucoup pour la ville. On prétend même qu'il a dû se batailler contre le pouvoir national, qui n'envisageait Brest que comme une base militaire, rien de plus, et envisageait même d'exclure tous les civils.
Il y a eu cette idée-là.
Attention. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits concernant Georges Lombard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende contenue pour entretenir le mythe de Georges Lombard qui a vraiment fait beaucoup pour Brest? Je ne sais pas. Ce n'est pas totalement authentifié. Mais ce qui est sûr, c'est que Georges Lombard était quand même assez frondeur. Ben, il s'est un homme de droite, mais pas un gaulliste. D'ailleurs, les gaullistes du coin le voyaient d'un mauvais œil. Il n'a pas hésité à braver plus d'une fois le pouvoir gaullien. D'ailleurs, justement, au cours de la dernière visite, où la visite de De Gaulle avait été un peu chahutée, il n'a pas manqué de rappeler que Brest avait vocation à se développer autrement que dans le domaine militaire. Et ça, c'est déjà audacieux de dire ça en général.
Oui, ça lui donnait sans doute une certaine indépendance. Ouais.
Ah ben, il a toujours été très indépendant. D'ailleurs, Pierre Maille, il n'a pas manqué de lui rendre hommage, alors qu'il n'était pas du même bord, en mentionnant des choix baroques, souvent à contre-courant, mais toujours dans l'intérêt de sa ville.
Très bien, on fera peut-être une émission sur les maires de Brest une autre fois.
Il y a beaucoup à dire, et c'est vrai que... Il y en a eu de très brillants, enfin des gens qui ont vraiment fait beaucoup pour la ville, comme Georges Lombard, ou même François Quiandre aujourd'hui, qui, quoi qu'on en dise, a fait beaucoup. Et je ne dis pas ça parce qu'il m'a payé, on m'a pas payé pour dire ça, je le jure. Et, il aurait même refusé d'être ministre pour se consacrer à sa ville.
Un long mandat, de toute façon. Donc on fait beaucoup de choses.
25, bientôt 25 ans, un demi-siècle, il aura battu le record de Georges Lombard. Bon, il y a donc les maires qui sont beaucoup investis pour leur ville, et puis... Il y a les autres.
Dont on ne parlera pas alors.
Oh si, on en parlera parce que c'est parfois intéressant aussi et révélateur.
Ok, on se dit à la saison prochaine alors du coup. Et puis en attendant, on peut réécouter cette émission et les autres sur le site internet de Transistor, ex-Radio Évasion. Merci Benoît.
De rien, Véronique.